Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Politique avec Eve Roger pour Le Parisien, Benjamin Duhamel. Tout nouveau plateau pour cette émission et nous accueillons Jordan Bardella. Donc, vous êtes candidat à la présidence du Rassemblement National. Vous avez jusqu'à maintenant assuré l'intérim à la tête de votre parti en raison de la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Nous reviendrons largement sur cette campagne qui s'ouvre. C'est Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui est l'autre candidat à la présidence du RN. Je voudrais commencer avec le sujet central, Jordan Bardella, pour les Français, c'est le pouvoir d'achat. C'était d'ailleurs le sujet central de la campagne de Marine Le Pen. Sauf que là, l'inflation explose, les prix augmentent et on ne vous entend pas, nulle part. Qu'est-ce qui se passe?
Vous n'avez pas perdu votre mauvaise foi, si je peux me permettre.
Je ne crois pas avoir jamais commencé.
Nos députés ont passé nuit et jour les premières séances de cette nouvelle Assemblée nationale qui a été rééquilibrée par la force du vote des Français en juin dernier. À débattre de ces questions du pouvoir d'achat, les députés du Rassemblement national ont obtenu notamment la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, que nous avions défendu pendant la campagne et que le gouvernement avait toujours refusé de voter. Nous avions obtenu des aides supplémentaires sur le fioul. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, au mois d'août, est en congé et les députés sont en congé malgré eux. Vous l'avez vu, Marine Le Pen a écrit officiellement à Elisabeth Borne pour lui demander une session exceptionnelle.
Vous étiez d'accord avec ce calendrier.
À nouveau de cette
vous
question.
Étiez d'accord avec ce calendrier, le fait de ne pas siéger en septembre et commencer en octobre, notamment pour discuter autour du budget.
Je crois qu'il y a une urgence aujourd'hui et que pour beaucoup de Français, le pouvoir d'achat est devenu le pouvoir de vivre. Voilà, il y a des millions de Français, il y a des millions de parents qui, en cette rentrée aujourd'hui, sont extrêmement inquiets par l'hiver qui vient. Sont extrêmement inquiets parce que la fin de mois commence pour de plus en plus de Français le 5 du mois.
Mais est-ce que le Rassemblement national en dit assez, Monsieur Bardella? Parce que les Français vont parler des vacances. Pendant les vacances, ils ont subi l'inflation.
Quand ils ont pu partir en vacances, continuons de réclamer aujourd'hui. Et je pense que c'est la priorité absolue, la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des énergies et notamment sur les carburants. Parce que beaucoup de Français aujourd'hui renoncent à utiliser leur voiture, renonce à se déplacer, renonce au plaisir de la vie parce que l'essence est devenue exorbitante.
Donc il faut prolonger d'une part la baisse de la TVA favorise tout le monde, y compris les CSP+, qui prennent leur voiture pour partir en week-end, et les auxiliaires de vie qui prennent leur voiture le week-end.
Elle bénéficie surtout, madame, aux mères et aux pères de famille qui renoncent aujourd'hui à se déplacer les week-ends, à emmener leurs enfants au cinéma, à aller voir les grands-parents parce que l'essence, notamment dans la ruralité, est devenue exorbitante. Donc, première mesure, la baisse de la TVA.
Vous dites qu'il faut baisser la TVA. L'Assemblée nationale a voté, il y a une ristourne de 30 centimes. Dans les stations totales, c'est 20 centimes en plus. C'est plus efficace qu'une baisse de la TVA. C'est-à-dire que là, concrètement, à partir du 1er septembre, cette baisse-là.
Non, parce que dans le projet présidentiel de Marine Le Pen, nous défendons une double mesure de la baisse de la fiscalité. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une aberration. Quand les Français vont faire le plein de leur voiture, il y a 60% de taxes. Donc, quand le carburant augmente, l'État continue aussi de s'enrichir. Nous défendions la baisse de la TVA de 20 à 5,5 parce que c'est une taxe sur les taxes et également l'annulation de toutes les hausses de TICPE qui ont été faites par Emmanuel Macron, dont je vous rappelle la première mesure lors de son arrivée au pouvoir a été en 2017 d'augmenter les taxes sur l'essence.
Monsieur Bardella, vous décrivez l'État comme s'il était étranger aux citoyens.
Deuxièmement.
L'État, c'est nous tous. Les revenus liés à ces taxes.
Excusez-moi, mais l'État, l'État, on va peut-être en parler, mais il n'y a plus grand-chose qui tient debout. La sécurité est par terre, l'école est par terre. Donc, en matière d'effondrement de l'État, Emmanuel Macron a fait beaucoup. Deuxièmement, nous demandons qu'il y ait un panier de 100 produits de première nécessité quand vous alliez faire vos courses qui soient totalement exemptés de TVA. Les produits de première nécessité, c'est le riz, les pâtes, les produits hygiéniques pour les femmes, les couches pour les bébés, on sort totalement la TVA.
Et puis, il faut augmenter les salaires. On connaît vos propositions, mais est-ce que le bouclier tarifaire
paye mieux? Permettez-moi.
Vous êtes contre le bouclier tarifaire que le gouvernement va
continuer? Je pense qu'il faut prolonger le bouclier tarifaire. Je vais vous répondre. Je pense qu'il faut augmenter les salaires. Les salaires sont beaucoup trop bas dans notre pays. Et en la matière, vous le savez, nous proposons une augmentation de tous les salaires de 10%. On passe un deal gagnant-gagnant avec les chefs d'entreprise. vous augmentez de 10% les salaires de votre entreprise, ces 10% de hausse sont exonérés de cotisations patronales pendant 5 ans.
Donc, au moment où l'État dépense, subventionne le pouvoir d'achat des Français sur l'énergie pour essayer de contrer l'inflation, met en place un bouclier tarifaire, c'était le sens de la question d'Ève Roger à l'instant, vous vous dites il faut réduire les rentrées de l'État, il faut réduire les revenus de l'État qui permettent d'aider les Français.
Je pense qu'il y a une chasse à faire dans les mauvaises dépenses de l'État. Et quand j'entends le gouvernement, en tout cas le président de la République, parler de fin de l'abondance, mais je m'étouffe parce qu'il y a des millions de Français dans notre pays qui ne connaissent pas cette abondance. Il y a un Français sur deux aujourd'hui dans notre pays, en France, qui est à 10 euros près lorsqu'il fait ses courses. Donc la première des fontaines
quel
d'abondance,
est le lien avec le train de vie de l'État,
la première fontaine d'abondance qu'il conviendrait de couper est la générosité de notre pays avec la terre entière. Nous demanderons et nous allons continuer de nous battre pour l'instauration dans le droit français de la priorité nationale. En temps de crise, les aides sociales, les allocations familiales doivent être réservées aux Français. Quand des Français aujourd'hui renoncent à se soigner parce que le reste à charge est trop important, et c'est le cas de près d'un tiers de nos concitoyens, et qu'ils voient dans notre pays arriver des gens qui viennent de l'étranger sans aucune condition de ressources et qui bénéficient des soins gratuits,
donc,
mais comprenez le sentiment d'injustice pour des millions de Français.
Donc moi, je Monsieur Bardella, vous nous dites les problèmes financiers de l'État français, le déficit, la dette qui se creuse, c'est l'immigration.
Ah, je pense que quand on ajoute chaque année dans notre pays l'équivalent de 2 fois la ville de Bordeaux, de manière légale, sans compter les clandestins, alors que nous avons 10 millions de pauvres, 5 millions de chômeurs et des millions de Français qui n'arrivent plus aujourd'hui à joindre les deux bouts, je pense que c'est une dépense dont on pourrait se passer.
Moi, je n'ai pas entendu votre
priorité nationale
sur le bouclier tarifaire.
Et nous demandons également la fin des aides sociales pour les étrangers.
Vous allez voter contre la prolongation du bouclier tarifaire ?
Nous voterons pour la prolongation, je suis extrêmement clair, nous voterons pour la prolongation du bouclier tarifaire parce qu'on n'a plus d'autre choix.
Mais que ça vous satisfait ? Le gouvernement dit, l'idée à partir du 1er janvier 2023, c'est de faire, de limiter les hausses à 10-20%. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne solution pour éviter que les factures d'énergie des Français explosent ?
Monsieur, le gouvernement nous pousse dans le vide. Et une fois tombé dans le vide, on nous demande, mais qu'est-ce que vous feriez à la place du gouvernement ? Ils sont responsables de la situation dans laquelle on est. Ils ont commis une faute morale et un crime économique lourd. Emmanuel Macron, François Hollande, Madame Borne, en organisant la fermeture de Fessenheim.
On va en parler, mais quand vous regardez quand vous regardez la situation en Europe, sur l'inflation, sur les hausses de factures, est-ce que vous ne vous dites pas au fond,
c'est peut-être pas
parfait, mais c'est quand même mieux qu'en Belgique, qu'en Grande-Bretagne, même si là encore, ça pourrait être mieux.
Je rappelle pour information que la France est avec Malte le pays d'Europe qui est le moins touché par l'inflation.
Vous voulez qu'on regarde la situation en Europe ? Moi, je vois l'Allemagne qui vient de faire, comme nous le réclamons, comme Marine Le Pen le réclame depuis des années, depuis des mois, la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie.
Pour compenser une augmentation d'impôts sur le gaz, si on veut être très précis.
La dépendance au gaz de l'Allemagne n'est pas la même que celle de la France. Nous avions un atout en matière énergétique qui s'appelait le nucléaire. Nos gouvernants ont, en fermant Fessenheim, en abandonnant Astrid, en vendant des turbines à General Electric qu'on a été obligé de racheter l'an dernier en catastrophe, ont commis le crime des crimes
Monsieur
en matière
Bardella,
économique.
Vous pouvez pendant des heures faire le bilan de ce qui a été. La question, vous qui aspirez à des fonctions nationales, c'est tout de même de savoir ce que vous proposez pour l'avenir. On va pas sans cesse faire des additions sur ce qui s'est passé.
Je vous l'ai dit, mais manifestement, ça vous convient pas. Mais je vous ai dit qu'il fallait baisser la TVA de 20% à 5,5%, exonérer un panier de 100 produits de première nécessité de la TVA, augmenter les salaires. Et il faut également, parce que vous m'interrogez sur la facture énergétique, il faut aller devant les institutions européennes et négocier une dérogation à l'égard du marché européen de l'électricité. Aujourd'hui, en France, les prix de l'électricité sont adossés au prix du gaz, alors même qu'une très grande partie, 92%...
Et là-dessus, le gouvernement est favorable à l'idée de découpler le prix du gaz, de l'électricité et l'Union européenne aussi.
Non mais d'accord, mais on leur demande pas d'être favorable, on leur demande d'agir. Ça fait 6 mois que Bruno Le Maire nous explique qu'il va les négocier devant les institutions européennes. Le bilan de la présidence française de l'Union européenne en la matière a été nul. Donc on leur demande pas de commenter, on leur demande d'agir.
Alors justement, au sujet de l'action, Monsieur Bardella, en fait concret, s'il vous plaît, Monsieur Bardella. Au sujet de l'énergie et des éléments concrets, plusieurs entreprises vont mettre leurs salariés au chômage partiel en raison de l'explosion de leur facture d'énergie. C'est le cas notamment de d'Uralex. Que faut-il faire concrètement pour ces entreprises dans le contexte actuel d'explosion des prix de l'énergie ?
Mais la question que je pose est, existe-t-il une solution pour l'hiver qui vient ? Parce que c'est avant qu'il fallait se poser la question. C'est il y a 6 mois, 1 an, 2 ans,
mais
3 ans.
Mais donc on fait rien, là, monsieur Mandela.
Mais écoutez, mais vous êtes marrant. Vous nous poussez dans le vide et ensuite vous nous demandez mais qu'est-ce qu'on fait ?
Qui pousse qui dans le vide ?
Mais je veux dire que quand on a...
Pardonnez-moi, vous êtes aujourd'hui un responsable politique national, vous aspirez à la présidence d'un parti qui se présente comme le premier parti d'opposition en France et vous me dites c'est pas à moi de trouver les solutions ni d'en proposer ?
Non, monsieur Boursier, je vous dis que quand on a effondré la filière nucléaire, quand on a mis à l'arrêt 32 réacteurs nucléaires sur 56...
Ils vont redémarrer dans les temps.
55% du parc nucléaire.
Oui.
Quand on s'est vanté d'avoir fait fermer Fessenheim, alors même que du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy, il y avait un consensus dans notre pays pour dire que le nucléaire était un garant de notre souveraineté, d'électricité peu chère pour les Français, de compétitivité pour les entreprises. Quand on tiers-mondise notre pays, quand on commet un crime économique en abandonnant le nucléaire, en faisant zéro investissement depuis 5 ans, à part 1 milliard symbolique l'an dernier dans le nucléaire, eh bien effectivement, il faut du temps pour remettre en marche les centrales. Donc il faut évidemment, pour vous répondre sur le long terme, remettre en place dès maintenant, relancer nos centrales nucléaires. Et vous saviez que nous proposions dans le cadre de la présidentielle, pour vous répondre, un grand plan ambitieux d'ici à 2040 qui prévoyait la construction de 20 nouveaux réacteurs nucléaires. Je crois que c'est le prix à payer pour la compétitivité de l'économie française et pour notre indépendance.
Monsieur Bardella, le RN a vocation à être un parti de gouvernement, c'est ce que vous souhaitez. On est d'accord là-dessus. Si vous accédez au pouvoir, une centrale nucléaire, ça met plus de 10 ans. Concrètement, qu'est-ce que vous faites face à la situation de cet hiver où on a la Russie qui menace de couper le gaz si tant est qu'elle ne l'ait pas déjà coupé, où on a une situation du parc nucléaire qui, de fait, sans doute compte tenu d'un problème d'investissement, est dans un état difficile. Qu'est-ce que vous faites ? C'est facile de dire, pendant la présidentielle, on disait, on veut dans 10 ans, mais là, tout de suite, concrètement...
Il faut avoir un peu de mémoire, monsieur Duhamel, il faut savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Et je me permets de vous rappeler que, pendant l'élection présidentielle, vous avez été très nombreux observateurs à nous critiquer lorsque nous avions émis les plus grandes réserves sur les sanctions énergétiques qui étaient décidées par l'Union européenne contre la Russie et je m'étais abstenu au Parlement européen. Ça nous avait été reproché. On voit aujourd'hui que les sanctions énergétiques qu'on a prises contre la Russie sont beaucoup plus douloureuses que pour le peuple français que pour la Russie qui est aujourd'hui noyée sous le cash.
Vous souhaitez la fin des sanctions à l'égard de la Russie.
Écoutez, soyons pragmatiques. Ces sanctions ne servent qu'à enrichir le pouvoir russe.
La croissance de la Russie est baissée de 6% en 2022 et 3,5% en 2023, selon le FMI.
L'excédent commercial.
L'asphyxie économique est en route.
L'excédent commercial de la Russie a été multiplié par 2 par rapport à 2021. Et ses revenus d'hydrocarbures ont augmenté de 40% par rapport au mois de février 2021.
Très précisément,
un an avant la guerre.
Est-ce que selon vous, il faut arrêter les sanctions à l'égard de la Russie ?
Que ces sanctions énergétiques, encore une fois, il y a des sanctions qui marchent, sanctions sur les décideurs de guerre, des sanctions sur les opérations bancaires, des sanctions sur les semi-conducteurs, tout ce qui alimente la machine de guerre russe. Mais voyez bien que quand...
Mais sur l'énergie, ça veut dire que nous finançons, ça veut dire que dans ce cas-là, on finance l'effort de guerre russe en Ukraine.
Mais vous croyez que la Russie nous a attendus pour financer l'effort de guerre ? Enfin, excusez-moi, mais voyez pas cette hypocrisie. On n'achète plus de pétrole à la Russie, on achète du pétrole à l'Inde, qui fait venir son pétrole de Russie et qui nous le revend plus cher. Vous comprenez pas qu'il y a un problème ? Vous voyez pas qu'il y a un problème aujourd'hui ? Est-ce que les sanctions qui ont été prises contre le régime de Poutine en matière énergétique, qui est responsable de cette guerre, encore une fois, renforcent la Russie ou l'affaiblit ? Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, et tous les économistes le disent, j'entendais même Monsieur Langlais, dans une chronique à la radio cette semaine, le dire, les sanctions en matière énergétique sont en train d'enrichir la Russie et se retournent évidemment contre nous. Parce que oui, si Vladimir Poutine ferme le gaz, alors ça va mettre la France ou l'Allemagne dans des situations très difficiles cet été.
Justement, ce qui va se passer cet hiver, s'il vous plaît.
Moi, je pense à l'intérêt des Français.
Justement, pardonnez-moi, M. Bardella, je pose une question, s'il vous plaît. Le gouvernement appelle déjà l'ensemble des entreprises, des citoyens, un peu à la sobriété, faire des efforts pour économiser l'énergie cet hiver, avec une piste qui est le télétravail et sa généralisation. À nouveau, on a découvert ça pendant la pandémie. Est-ce que c'est une mesure que vous jugez utile ?
Oui, je suis pas contre la sobriété. Je pense que il n'y a pas un Français qui va vous dire qu'il est contre la sobriété. Mais je veux dire, on n'en est plus là. Donc il y a des mesures à prendre. Et nous souhaitons également, pour prolonger l'échange qu'on avait, que les super profits, parce que quand le gaz voit ses tarifs sur le marché, son prix spot être multiplié par 12, c'est bien qu'il y a de la spéculation.
Donc quand
c'est
Elisabeth Borne dit « je ne ferme pas la porte à la taxation de ces super profits », vous applaudissez ?
Mais ils ferment pas la porte, ils discutent, ils disent on va faire, mais ils font rien en fait. Je veux dire, ça fait 6 mois qu'on aurait pu mettre en place ce projet. Le Royaume-Uni l'a fait, la Hongrie l'a fait, l'Italie l'a fait. Je vous donne un exemple. L'Italie, sur les super-profits des grands groupes pétroliers et gaziers, prend 25% des super-profits qui ont été faits par rapport à l'année 2021. Donc, il y a des mesures à prendre pour, encore une fois, éviter la spéculation. Il s'agit donc de taxer
les super-profits. Mais le gouvernement dit qu'ils vont lever les compteurs à la fin de l'année pour voir si ces entreprises ou augmenté les salaires ou rendu du pouvoir d'achat aux Français. Est-ce qu'on ne peut pas attendre 3 mois pour savoir s'il faut effectivement taxer les super-profits ou non ?
Mais madame, quand le prix du gaz est multiplié par 12, j'ai pas besoin d'attendre le relevé du compteur Linky, pardon, pour comprendre qu'il y a une spéculation qui s'organise et qui est aujourd'hui massive. Il y a un accord à prendre pour effondrer les profits de la Russie sur ses exportations d'hydrocarbures. Il s'agirait simplement que l'ensemble des pays exportateurs de gaz chez qui l'Union européenne se fournit, je pense à l'Algérie, je pense aux Pays-Bas, je pense au Royaume-Uni, se mettent autour de la table et décident de vendre leurs matières premières et notamment leur gaz aux tarifs qu'ils le vendent sur ces tarifs moyens sur ces 2 dernières années. Et là, par un effet mécanique, vous allez effondrer les surprofits de l'économie russe. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'ils s'enrichissent pendant cette guerre et qu'il y a donc des profiteurs de guerre qu'il convient donc de taxer par l'outil fiscal.
D'un mot sur les super-profits, est-ce que vous soutenez l'idée défendue par Olivier Faure, le Parti Socialiste et la NUPES de faire un référendum d'initiative partagée sur cette question des super-profits ?
Non mais j'ai pas besoin d'un référendum d'initiative partagée.
Ah bah, si le gouvernement le décide pas, ça peut être une façon d'essayer d'imposer ce sujet-là dans le débat.
Mais nous sommes le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, donc je veux bien, si vous voulez, que la gauche qui essaie d'exister s'agite un peu. Il y a une mesure à prendre, c'est la surtaxation des profits. L'Italie l'a fait, le Royaume-Uni l'a fait.
Si le gouvernement ne le fait pas, est-ce que vous pourriez soutenir ce référendum d'initiative partagée ?
Eh bien, si le gouvernement ne le fait pas, il faudra que les Français votent pour le Rassemblement national, encore une fois, aux prochaines élections.
Le budget...
Vous aviez parlé tout à l'heure, on parlait de mesures de sobriété, vous n'avez donné aucune mesure de sobriété pour vous, mais est-ce qu'au moins, dans votre parti, dans votre immeuble, vous regardez comment vous pouvez faire de la chasse au gaspillage ?
Non mais écoutez, d'accord.
Vous avez commencé à regarder ?
Les mesures de bon sens, elles existent. Les mesures de bon sens, c'est de faire en sorte qu'on applique la loi sur l'utilisation des panneaux lumineux dans certaines grandes villes la nuit. Donc, mais je veux dire, l'essentiel n'est pas là. Je veux dire, on n'est pas là pour mettre des bouts de sparadrap. Il s'agit de regarder comment est-ce que à l'hiver,
faut participer à l'effort collectif.
C'est comment est-ce que dans l'hiver 2023, on évite ce qui va nous arriver pendant l'hiver 2022.
Si ça commence nulle part, Monsieur Bardella, ça fonctionne pas. Si personne ne fait d'effort, aussi petit soit-il, ça n'avancera jamais.
Mais il faut. Mais écoutez, non, mais on peut sucrer les fraises et trouver toujours des petites économies de bout de chandelle. C'est pas le sujet. Je pense que les Français aujourd'hui, les Français aujourd'hui ont déjà conscience de la nécessité de ne pas faire d'excès et font déjà attention. C'est pas le sujet. Je veux dire, mais quand
est-ce qu'il faut moins consommer d'énergie à tel moment de la journée ? Est-ce qu'il faut par exemple mettre dans le débat la question de la baisse de la vitesse sur les routes, qui là pour le coup permettrait de faire des économies ?
Mais dérisoire. Est-ce que vous savez que l'hiver dernier, il y a un Français sur 5 qui a souffert du froid.
Absolument, 12 millions.
Est-ce que vous savez que l'hiver dernier, il y a des retraités qui étaient obligés de mettre des pulls parce qu'ils n'arrivaient plus à se chauffer et que le fuel avait pris une augmentation qui était massive. Donc, appliquons la baisse de la TVA pour rendre service à nos concitoyens et regardons comment, et je crois que c'est là l'essentiel, retrouver notre indépendance en matière énergétique.
Il va y avoir évidemment les discussions
évidemment par le nucléaire.
Sur le budget qui vont s'ouvrir à l'Assemblée nationale, avec une situation qui est extrêmement complexe, puisque l'État subventionne beaucoup de domaines, et en même temps, Elisabeth Borne l'a rappelé, veut rester dans les clous du 3% de déficit à la fin du quinquennat. Donc, on va falloir faire des économies tout en continuant à aider les Français. Les discussions, elles débutent bientôt, Benjamin.
Absolument. Et Gabriel Attal, dans l'excellent journal Le Parisien, appelle à des dialogues de Bercy. Il dit, voilà, moi j'appelle les députés, sénateurs des commissions des finances à venir discuter précisément de ce budget. Est-ce que vous dites aux députés RN, chiche, allez discuter avec Bruno Le Maire, Gabriel Attal ?
Le lieu de la discussion s'appelle l'Assemblée nationale.
Oui, mais avant.
Je vois Non, mais c'est très amusant. Je vois que depuis que l'Assemblée nationale est à l'image de la société française et qu'elle représente le peuple français dans sa pluralité, puisque c'est l'un des enseignements, si le peuple est entré à l'Assemblée nationale, on essaie, le gouvernement essaie de chercher des lieux de discussion, des agora alternatives. Donc on a le Conseil national de la refondation, ça c'est le dernier gadget d'Emmanuel Macron après le grand débat. On a ces discussions en parallèle qui s'organisent de l'Assemblée nationale. Je veux dire que le gouvernement n'ait pas peur de l'Assemblée nationale. On a bien compris que mais nous allons faire connaître aux Français, ils le connaissent déjà, mais nous ferons connaître au peuple français les économies que nous proposons dans le budget de l'État. Et la première des économies que nous allons proposer, je vous en ai parlé, est d'arrêter l'immigration.
Il y a une possibilité que vous votiez ce budget ou que vous vous absteniez ou d'ores et déjà vous dites de toute façon, on est dans l'opposition, donc c'est non pour le budget.
Non, on ne votera pas le budget. On est dans une démarche pragmatique. Ce qui va dans le bon sens...
Avant même de connaître le texte du gouvernement.
Ce qui va... Bon, écoutez, on commence à les connaître. Ça va bientôt faire 6 ans qu'ils sont en responsabilité, donc on commence à les connaître. On a vu que des gens qui sont prétendus comme des Mozart de la finance ont laissé un pays à l'heure actuelle avec 600 milliards d'euros de dettes.
Mais est-ce que leur prêter voilà, des intentions, c'est des gens pas l'exact qui ont... inverse du pragmatisme
Mais je
n'en prête
pas d'intention, je les connais. Voilà. Et je pense que les Français connaissent la brutalité et la dureté du projet d'Emmanuel Macron pour le pays.
Donc on est sûr que vous n'irez pas à Bercy dialoguer avec Gabriel Attal.
Non, je n'irai pas à Bercy dialoguer avec Gabriel Attal, mais j'en discuterai avec lui volontiers sur peut-être l'un de nos plateaux dans un débat que peut-être on aura l'occasion de faire.
Avec plaisir. Monsieur Bardella, d'un mot, il y a la possibilité pour le gouvernement d'utiliser le 49-3 pour faire passer ce texte du budget. Est-ce que pour vous, il y aurait des conséquences, des conclusions à tirer, par exemple une motion de censure ?
Bien sûr qu'il y aura des conséquences à tirer. Vous comprenez bien la situation dans laquelle on est. Je veux dire, au second tour des élections législatives, les Français ont de fait acté la fin du fait majoritaire, ce qui a entraîné une révolution politique, ce qui a entraîné un rééquilibrage aujourd'hui des pouvoirs. Donc, le gouvernement doit maintenant, dans la politique qu'il entend conduire sur les 5 prochaines années, entendre ce résultat des urnes et tenir compte aussi
des oppositions. Donc, s'il passe en force, est-ce que vous déposerez une motion de censure ? Est-ce que votre groupe le fera ?
Et probablement. Probablement que nous déposerons une motion de censure. Nous verrons, encore une fois, il y aura une discussion. L'Assemblée nationale reprend les commissions en ce moment, mais les séances plénières à partir du début du mois d'octobre. Mais comprenez bien aujourd'hui
l'idée,
que
la conversation se passe avant
les Français
octobre.
Seront protégés et défendus à l'Assemblée nationale.
Monsieur Bardella, pardonnez-moi de vous entendre, mais le temps file. Nous revenons dans un instant en direct pour la suite de BFM Politique avec la nouveauté de cette saison. Je vous présenterai 3 photos d'actualité. Vous aurez le choix de 2 d'entre elles. Et puis nous poursuivrons évidemment cette... échange et nous reviendrons notamment sur la campagne qui s'ouvre au sein de votre parti pour la présidence donc du RN. À tout de suite. Jordan Bardella est l'invité de BFM Politique. Monsieur Bardella, nouveauté de cette saison de BFM Politique, nous allons faire apparaître dans le mur derrière moi 3 photos d'actualité. Derrière chaque photo se cache une question. Vous pouvez en choisir 2. Les voici. Jean-Marie Le Pen, un barbecue et Ségolène Royal.
Il n'y a pas de lien entre
les trois. Alors, le barbecue, et je vais vous faire plaisir, je vais prendre Jean-Marie Le Pen.
Alors, on va commencer par le barbecue. Polémique qui a donc été... Alors, on commence par Jean-Marie Le Pen. Donc, allez-vous célébrer les 50 ans du Front National, créé en octobre 72 par Jean-Marie Le Pen ? C'est plus vraiment la ligne du Rassemblement National, le FN. Est-ce que vous allez célébrer ces 50 ans ?
Il n'y a pas de célébration particulière qui est prévue. Bon, maintenant, nous avons plus d'un demi-siècle de combat politique, et je pense que même les Français qui nous ont combattus, même les Français qui ont été en désaccord avec nous, je pense ne peuvent pas nous enlever le fait d'avoir peut-être vu juste sur beaucoup de sujets avant tous les autres. Et on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais peut-être pas d'avoir aimé notre pays.
Donc pas de célébration.
Ouais.
Non, il n'y a pas de célébration. Moi, je préfère qu'on célèbre plutôt et qu'on fasse plutôt le bilan de 10 ans, 11 ans de présidence du RN par Marine Le Pen, parce que vous savez qu'on a un congrès le 5 novembre. Et donc, probablement, ce congrès éclipse... cette date du 5 octobre.
D'un mot, Jean-Marie Le Pen regrette de ne pas être associé à ce qui pourrait être des célébrations, des commémorations. Vous avez le Jean-Marie Le Pen honteux, alors que pourtant c'est le fondateur de ce parti, 1972, candidat plusieurs fois à l'élection présidentielle.
Non, mais moi je ne renie pas l'histoire. Et je m'apprête à, si les Français le décident, à prendre la présidence d'un parti qui a été fondé par Jean-Marie Le Pen. Encore une fois, je l'ai peu connu, on est d'une génération assez différente.
Oui, ça ne nous a pas échappé.
Mais je pense qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir aimé son pays et d'avoir probablement voulu, parfois avec excès...
Mais vous inscrivez dans ses pas ?
Alerter les siens sur un certain nombre de périls qui pouvaient guetter notre peuple, et je pense à la question de l'immigration.
Le barbecue, donc c'est votre deuxième choix, Jordan Bardella. La polémique a été lancée par Sandrine Rousseau. Elle a dit, je la cite, il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. La question, vous la voyez, est extrêmement simple. Est-ce que le barbecue, c'est un symbole de virilité ?
Je trouve ces débats absolument affligeants.
Ah oui, mais vous avez vu que beaucoup de responsables politiques sont exprimés spontanément là-dessus. Hein.
À l'heure où on débat du côté sexiste du barbecue, le steak haché, le prix du steak haché a augmenté de 26%. Par rapport à l'an dernier. Donc je pense que les Français sont à des milliers de kilomètres de ces polémiques qui sont lancées par les Verts un peu pour exister. Et ce qui est peut-être affligeant, c'est que Madame Rousseau est enseignante dans le supérieur.
Alors c'est un
Verts
débat féministe.
Sont en train d'installer, je crois, dans notre société une forme de un nouveau totalitarisme, une société faite d'interdictions.
C'est aussi un débat.
Une abolition de la vie privée.
Nouveau totalitarisme, on peut considérer que c'est excessif.
Je pense que les Verts sont en train d'installer l'idée d'un catastrophisme généralisé. Ce sont des collapsologues.
Mais c'est quand même un débat environnemental, cette viande. à défaut d'être un débat féministe, un débat environnemental, est-ce qu'il faut réduire la consommation de viande?
Non, mais c'est pas le
pour
sujet.
Pour lutter contre le réchauffement climatique.
Madame c'est Rousseau, si vous voulez, s'indigne du fait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes qui fassent le barbecue. Bon.
Est-ce qu'il faut consommer
si
moins de viande?
On peut avoir des débats et débattre ad vitam aeternam de la couleur des cartables. Je ne crois pas que c'est, en tout cas, ce qui préoccupe nos concitoyens.
Vous n'aviez pas envie de choisir Ségolène Royal?
Ah, en fait, on choisit 2 sur 3, mais on répond aux 3.
Bon, non, c'est une vraie question. Non, mais pardonnez-moi, mais les choix indiquent aussi quelque chose.
Peut-être vous voulez rappeler ce qu'a dit Ségolène Royal, mais écoutez...
Elle a tenu des propos qui ont été considérés comme des reniements.
On est dans une guerre qui est tragique, dont la responsabilité incombe à la Russie, qui est l'agresseur dans cette affaire. Maintenant que dans un conflit, il y ait une bataille de l'image, une bataille de l'information des deux côtés, c'est vrai, et c'est le cas de tout temps d'ailleurs de l'ensemble des conflits.
Donc elle a raison de mettre en avant la propagande de guerre, notamment venant de Volodymyr Zelensky, considérant qu'au fond, voilà, le bombardement de la maternité à Mariupol, on ne sait pas ce que c'est, Boutcha, il faut être sûr d'aller voir sur le terrain. Elle a raison de dire ce genre de choses?
Je crois qu'elle a peut-être tort dans le fait de douter de l'existence de crimes de guerre de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Maintenant qu'il y ait une bataille de l'information, c'est vrai.
Monsieur Bardella, venons à cette campagne donc qui s'ouvre dans votre parti. Vous êtes candidat désormais à la présidence, j'allais dire pérenne, hein, officielle du RN, puisque vous en avez assuré la présidence par intérim durant la campagne présidentielle. Louis Alliot, maire de Perpignan, est l'autre candidat. Qu'est-ce qui vous différencie de lui?
On a des parcours, des sensibilités qui sont différentes. Louis a une... C'est une ancienneté que je n'ai pas au sein du Rassemblement National. Il a rejoint le mouvement dans les années 90. Moi, j'ai rejoint le Rassemblement National il y a 10 ans.
Donc lui, il a rejoint le Front National, du coup.
Oui, moi aussi, parce qu'en 2012, c'était le Front National. On a des différences de parcours. Il est le maire de Perpignan, le maire d'une ville de plus de 120 000 habitants. Moi, je suis aujourd'hui le président par intérim et je considère que le travail que nous avons fait avec Marine, avec l'ensemble des gens qui m'entourent au sein du Rassemblement National, est la voie à suivre pour conquérir le pouvoir. Nous avons obtenu des scores qu'on n'avait jamais obtenus, je veux dire 42% des voix à la présidentielle, quasiment 10 points de plus qu'il y a 5 ans, 89 députés historiques dans un groupe puissant à l'Assemblée nationale.
Il aurait fait moins bien?
Donc, je ne sais pas s'il aurait fait moins bien. Moi, il a beaucoup de qualités, moi j'ai de l'amitié pour lui, c'est d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui, donc je lui souhaite. Et je crois que dans tous les cas, nous partageons la même ligne politique, et en tout cas, je crois que nous partageons la même volonté de voir la stratégie de gouvernement qui a mis en place Marine Le Pen en 2011 et qui doit nous conquérir au pouvoir se poursuivre et se pérenniser.
Donc, il y a quand même des vraies nuances à priori.
Vous dites qu'on a la même ligne politique. Quand on écoute les soutiens de Louis Alliot, surtout en coulisses, ils disent Jordan Bardella, c'est la ligne identitaire, c'est la ligne qui regarde du côté d'Éric Zemmour, c'est la ligne qui croit à la théorie du grand remplacement. C'est ce que disent les soutiens de Louis Alliot.
Je ne pense pas que de décrire la réalité de l'immigration telle que la voient les Français aujourd'hui dans notre pays soit d'être identitaire. Vous savez, il y a des millions de Français, peut-être beaucoup qui nous regardent aujourd'hui, qui ont le sentiment aujourd'hui de devenir des étrangers dans leur propre pays. Qui ont le sentiment de voir, de ne plus reconnaître le quartier, la ville, le pays, les campagnes dans lesquelles ils ont grandi et qui s'inquiètent de ce remplacement de nos mœurs, de nos modes de vie par des modes de vie qui viennent d'autres pays.
Donc vous reprenez cette expression de grand remplacement, juste pour être précis.
Avec le nôtre.
Vous reprenez cette expression de
grand remplacement. Je n'utilise pas ce terme tel quel parce que je pense qu'il n'est pas très clair. Je pense que quand vous dites grand remplacement, les Français ne voient pas très bien ce qu'on souhaite dire. Mais je pense qu'il pointe une réalité qui est juste. Je vais vous emmener avec moi dans les quartiers où j'ai grandi. Je vais vous emmener à Saint-Denis, je vais vous emmener à Bobigny, je vais vous emmener à Drancy. Et vous verrez que notre pays a considérablement changé de visage dans ses quartiers. Et que oui, l'immigration dans les prochaines années va constituer peut-être l'un des grands périls pour notre pays. Ce qui ne veut pas dire que je ne crois pas dans l'assimilation. Bah, vous savez, ma mère est arrivée d'Italie dans les années 60. Et quand elle est arrivée, elle a fait ce qu'ont fait beaucoup de générations d'immigrés. C'est-à-dire aimer le pays, respecter la langue, respecter l'autorité.
Et ce qui est sûr, Monsieur Bardella, c'est que
l'histoire de
Monsieur Bardella, pardonnez-moi, mais est-ce que vous voulez incarner un renouveau sur le Rassemblement National? Nous parlions tout à l'heure des 50 ans du Front National. Ce qui est sûr, c'est que les mots que vous utilisez, le constat que vous faites, depuis 50 ans, on entend la même chose à chaque interview d'un membre du Front National ou du Rassemblement National.
Je ne suis pas là pour incarner le Rassemblement National qui vous fait plaisir.
Moi, je n'ai aucun plaisir. Je vous pose des questions, Monsieur Bardella.
Une grande force populaire qui n'est pas seulement en charge de s'opposer à Emmanuel Macron, mais de préparer son arrivée au pouvoir dans 5 ans. Et moi, je veux m'adresser aujourd'hui...
Et en charge de lutter contre l'immigration, non ?
À tous les
Comme
Français.
Comme depuis 50 ans.
Et à tous les électeurs, parfaitement, à tous les électeurs du Rassemblement National. Je veux leur dire, aidez-moi. Aidez-moi à poursuivre le travail de Marine à la tête de notre mouvement.
Justement,
venez au Rassemblement National, adhérez avant le 26 septembre, parce que pour être élu et pour poursuivre le travail de Marine Le Pen, j'ai besoin de tous nos électeurs, j'ai besoin qu'ils me rejoignent.
Est-ce que ces
j'ai besoin qu'ils nous rejoignent.
Auxquels vous faites
j'ai
appel,
besoin qu'ils adhèrent avant
que
le 26
septembre leur garantir
et qu'ils me soutiennent, que parce qu'en votant pour moi, ils voteront aussi pour
elle. Est-ce que vous leur garantissez aussi que vous ne serez pas candidat en 2027 si Marine Le Pen elle-même était candidate?
Mais il y a une question... La candidature de Marine, je l'ai dit en 2027, relève pour moi de l'évidence. Je l'ai dit et je continuerai de le dire. Je sais que on me prête, après le vote caché, maintenant il y a la parano de l'agenda caché, mais n'écoutez pas les quelques offres, les quelques esprits chagrins qui sont faits. J'ai toujours été à ses côtés, je sais ce que je lui dois.
Donc, il n'y a pas de concurrence entre vous deux.
Mais il n'y a pas de concurrence, je sais que ça vous ferait plaisir, concurrence. J'ai avec Marine une relation d'une très très grande confiance. J'ai toujours été à ses côtés, je continuerai de le
faire. Donc elle doit être candidate en 2027, vous pensez qu'elle le souhaite ?
Je pense que, d'abord, je ne parle pas à sa place, mais je pense qu'elle a acquis aujourd'hui une expérience, une légitimité sur le camp national en dépassant totalement le Rassemblement National, parce que c'est sa stratégie. Je veux dire, on a été dans une situation de concurrence pendant cette élection présidentielle, notamment avec Éric Zemmour, et on a prouvé que la stratégie qu'on a choisie était la bonne, était celle qui nous avait permis de gagner les européennes, était celle qui nous avait permis d'obtenir 89 députés à l'Assemblée nationale.
Rappelons, et donc, elle avait dit, sauf si vous êtes exceptionnel,
elle n'y retournerait pas
de nouveau candidat.
Marine Le Pen s'exprimera. Voilà. Marine Le Pen dira si oui ou non elle souhaite être candidate pour une quatrième fois. Moi, je pense qu'elle est la mieux placée pour faire gagner nos idées en 2027. Et beaucoup de Français aujourd'hui
quand est-ce qu'elle va parler
que sur les
est-ce que vous lui demandez, Monsieur Bardella, est-ce que vous lui demandez justement
aujourd'hui la mieux placée
pour, est-ce que vous lui demandez pour éviter que des journalistes mal intentionnés ne vous posent la question à chaque fois que vous serez sur un plateau, est-ce que vous lui demandez de clarifier les choses le plus rapidement possible pour que la question ne se pose plus?
Mais non, je ne lui demande absolument rien. Pardon, hein, mais l'élection présidentielle s'est achevée il y a 3 mois. Donc, je veux bien qu'on parle de 2027, je veux bien qu'on parle de 2032 et après,
ce qui intéresse les Français aujourd'hui,
c'est le montant de leur facture. Je ne perçois pas la politique comme un ascenseur personnel. Moi, j'ai commencé à me battre pour les idées que je défends il y a 10 ans dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Parce que j'ai vu aujourd'hui les grands dangers qui pesaient sur notre pays et je veux continuer de le faire parce que je pense que nous allons arriver au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle j'invite tous les Français à nous rejoindre, parce que je leur dis les choses très clairement. S'ils ne viennent pas me soutenir, s'ils n'élisent pas cette continuité avec Marine Le Pen, alors peut-être que le combat que nous avons mené depuis des années et des années, eh bien, ne pourra se poursuivre.
Attendez, si c'est
ça veut dire que c'est Louis Alliot, ça marche pas.
Le combat pourra pas continuer.
Mais je ne dis pas cela, pas
catastrophique. C'est exactement ce que vous dites. Vous dites adhérez, vous votez pour moi, sinon ça ne va pas aller.
Les adhérents du Rassemblement National ont aujourd'hui le choix entre deux candidatures qui partagent la même politique. Vous avez raison de rappeler qu'il y a des parcours, il y a des sensibilités particulières. Marine Le Pen m'a confié la tête de liste aux élections européennes. Elle m'a confié la vice-présidence du Rassemblement National. Elle m'a confié la présidence...
Monsieur Bardella, vous venez de dire votez pour moi, sinon. C'est le sens de la question de Benjamin. Hein.
Par intérim... Donc moi, je souhaite poursuivre ce travail de binôme que nous avons.
Est-ce que vous allez le nommer numéro 2, comme lui a dit qu'il vous nommerait numéro 2 s'il était élu?
J'aurai l'occasion de faire connaître cette semaine le programme que je souhaite présenter aux adhérents du Rassemblement National, la vision et l'équipe avec laquelle je souhaite m'entourer. Donc je vous invite à lire le point jeudi.
Alors justement, pardonnez-moi, mais alors moi je vous lis, j'ai sous les yeux votre lettre aux adhérents, aux électeurs du Rassemblement National, et c'est un point de détail, mais j'adore ça. Vous venez d'ailleurs de reprendre cette sémantique. Vous dites, je me suis engagé il y a plus de 10 ans dans ma cité de Seine-Saint-Denis. Vous êtes un jeune homme politique. Et le paragraphe d'après, vous écrivez, nous ne serons jamais des politiciens. Mais vous n'avez jamais fait que ça, Jordan Bardella, de la politique. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas un politicien, puisque depuis votre plus jeune âge, vous n'avez fait que ça?
Mais je n'ai pas honte d'avoir...
Je ne vous dis pas qu'il y avait honte. Vous dites, nous ne serons jamais, ce sont vos mots. Nous ne serons jamais des politiciens.
Je n'ai pas honte d'avoir choisi la politique, parce que pour moi, la politique, c'est une vocation, c'est un engagement, et je pense qu'il n'y a pas de honte à servir son pays, à servir ses idées. Et je pense que de s'engager dans un mouvement comme je l'ai fait, qui est aujourd'hui en proie à l'accession aux responsabilités, va mener nos idées au pouvoir.
Non, mais est-ce que vous ne dénoncez pas précisément ce que vous êtes
Monsieur Boursier, quand on veut prendre des responsabilités, quand on veut exercer les responsabilités, on s'y prépare. Donc, nous ne serons jamais comme les autres. nous ne serons jamais comme les gens du Parti Socialiste, comme les gens des Républicains qui ont trahi tous les engagements qu'ils ont pris devant les Français. Je pense que nos idées, elles sont partagées par une majorité de Français. Il y a aujourd'hui un Français sur deux, allez, 42% du corps électoral français, qui partage nos idées. Donc oui, moi j'assume d'avoir choisi l'engagement politique et j'assume de porter des idées qui sont, je le crois, connectées au réel.
Pardon, je vais tenter une question politicienne. Vous parliez des coulisses et des off. Certains de vos proches expliquent que on ne peut pas être à la fois maire de Perpignan, ville de plus de 120 000 habitants, et patron du Rassemblement national. Est-ce que vous considérez, au fond, que Louis Alliot n'a sans doute pas une suffisante disponibilité pour être patron de votre formation politique ?
J'ai l'expérience de cette présidence du Rassemblement national. Je suis à la tête par intérim du mouvement. Avant, j'en étais vice-président.
Il a 30 ans de parti, lui.
Depuis maintenant un an. Et pour en avoir la modeste expérience de ces 365 jours à la tête du Rassemblement national, je peux vous assurer qu'un parti comme le nôtre, qui est la première force d'opposition et qui s'apprête à remporter de nombreuses collectivités et peut-être la victoire à la bataille suprême dans 5 ans, il faut y être à temps plein. C'est un engagement de tous les jours.
Pardonnez-moi, mais vous n'êtes, excusez-moi, monsieur Bardella, mais vous n'êtes pas eurodéputé ? Vous n'êtes pas député européen ?
Bien sûr que je suis député européen.
Mais du coup, alors comment vous faites ? Puisqu'il faut y être, vous venez de dire à l'instant, il faut être à plein temps, matin, midi et soir, sans vos mots.
Excusez-moi, on peut se mentir. Mais
éclairez-moi,
le temps que vous occupe un mandat de député européen n'est pas la responsabilité que vous avez quand vous êtes maire d'une très grande ville. Donc je pense
donc vous n'êtes pas au Parlement européen, donc vous n'avez pas de travail au Parlement européen,
parce que je suis, excusez-moi, élu en région Île-de-France, que ça ne vous aura pas échappé que le siège du Rassemblement national se trouve à Paris, que je suis élu de la Seine-Saint-Denis et que donc j'ai cette proximité avec nos instances que je peux évidemment.
Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une contradiction
tous les jours?
Il n'y a pas de contradiction
non,
du
j'ai
tout.
Pas l'impression qu'il y ait une...
Mais pourquoi il est candidat, au fond, Louis Alliot, si vous dites qu'il n'a pas de temps disponible, qu'au fond, vous avez la même ligne politique?
Mais écoutez, je ne suis pas à la place de Louis. Vous l'inviterez et probablement il
viendra
répondre.
Parce qu'il y a des gens au sein du parti qui vous veulent du mal. On dit beaucoup notamment que, dites la bande d'Hénin Beaumont, Steve Briouat, Bruno Bild, vous veulent du mal et que donc
non,
ils sont en coulisses pour essayer
pas,
de
je ne crois pas qu'ils me
lutter
veulent,
contre vous.
Je ne crois pas qu'ils me veulent du mal. Et évidemment, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Voilà, je veux dire, dans une formation politique, moi j'ai été candidat l'an dernier au Conseil national, qui est une sorte de vote préférentiel des adhérents, je suis arrivé en tête. Donc, si vous voulez, cueillez dans une organisation humaine des gens qui puissent être en désaccord avec vous, faire d'autres choix politiques, c'est normal, c'est la vie, et probablement qu'il en est de même pour vous au sein de cette rédaction.
Monsieur Bardella.
Mais ce que je veux dire, c'est que on est aujourd'hui à un moment de haute responsabilité, à un moment qui est historique pour nous, parce que beaucoup de Français savent que si nous n'avons pas remporté cette élection présidentielle, alors probablement que notre arrivée au pouvoir n'est qu'une question de temps.
Le premier message que vous envoyez aux électeurs, aux Français, donc c'est un déplacement dans l'enclave de Ceuta. Donc c'est un territoire espagnol qui est au nord du Maroc. Donc ce sera l'immigration de votre sujet, votre premier sujet de campagne.
Oui, c'est un sujet fondamental. Et encore une fois, en tant que député européen, il est de mon devoir d'alerter mon peuple, d'alerter les miens des dangers qui guettent le pays dans les 50, dans les 100 prochaines années. Et effectivement, que ce soit l'enclave de Ceuta ou le déplacement que j'avais effectué à la frontière entre la Grèce et la Turquie, ce sont des points d'entrée de l'immigration clandestine en Europe. Et je dirais une chose, l'immigration est devenue aujourd'hui hors de contrôle dans notre pays. On ne sait même plus qui rentre, on ne sait même plus à 100, 200, 300 000 près le nombre de clandestins qui sont dans notre pays. Alors moi, j'entends bien que M. Darmanin gesticule et qu'on passe un mois sur l'expulsion d'un imam, au passage ridiculisant et humiliant totalement notre pays. Parce
alors justement,
que, on surveille en France les gens qui sortent sans attestation, on fait voler des drones pour surveiller les piscines privées, mais un imam radicalisé sur lequel le ministre de l'Intérieur fait tout son cinéma depuis 2 mois, on est incapable de le surveiller.
Jordan Bardella.
Ce qui est donc une humiliation et ce qui démontre que l'immigration et la sécurité aujourd'hui en France sont totalement hors de contrôle.
Cet homme, donc, c'est lui, l'imam Hassan Iqiyoussen, depuis la confirmation donc, par le Conseil d'État de son arrêté d'expulsion, il a quitté le territoire français, c'est son avocate qui me l'a confirmé directement. Il est donc parti. Est-ce que l'affaire, elle n'est pas réglée ?
Mais l'affaire n'est pas réglée parce que c'est une humiliation pour le ministre de l'Intérieur. Enfin, je veux dire, la seule fois en 5 ans où Gérald Darmanin fait acte d'autorité pour communiquer, peut-être occuper l'espace cet été, peut-être essayant peut-être d'instiller l'idée de sa candidature à la prochaine élection présidentielle, essayer de faire acte d'autorité, c'est une humiliation. Le seul imam qu'on est censé expulser, qu'on est censé mettre hors du territoire national, qui a une fiche S, qui tient des propos absolument insupportables et nauséabonds sur les femmes, sur les juifs, sur les homosexuels, sur la République française, est introuvable.
Mais il est plus sur le territoire
français. Vous vous rendez compte du cinéma?
Il n'est plus sur le territoire français.
Et il est où alors?
Ah bah, écoutez, ses conseils disent qu'il n'est pas là.
Il est en tout cas à l'étranger. Son avocate affirme qu'il est à l'étranger.
Donc,
est-ce que c'est encore notre problème?
De Monsieur Iquissen est plus au courant que le ministre de l'Intérieur.
C'est son client.
Alors, je trouve ça extrêmement inquiétant. Mais voyez.
Mais vous ne trouvez pas qu'il a gagné quand même sur le principe? Ça veut dire que cette expulsion est le début de d'autres expulsions.
Le Conseil d'État lui a donné raison. Quel Gérald Darmanin doit-on croire? Celui qui dîne avec M. Iquissen en 2014 pour avoir ses voix lors des élections municipales? Ou Gérald Darmanin qui montre les muscles face à M. Iquissen? Est-ce qu'il faut croire le Gérald Darmanin qui nous expliquait il y a encore un an devant une commission d'enquête parlementaire qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité? Ou celui qui va visiter les commissariats de Marseille en nous expliquant qu'un gardé à vue sur deux est étranger?
Mais Monsieur Barret, vous cessez de dire l'état de droit ne permet pas d'expulser des prêcheurs de haine. Là, le fait est que le Conseil d'État a validé l'expulsion d'Hassan Iquissen.
Et je ne remets pas en cause sa décision. Mais je veux juste vous dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que pendant qu'on est en train de parler de M. Iquissen, il y a là, juste à côté du plateau, dans la ville de Paris, probablement des dizaines, notamment de mineurs étrangers non accompagnés, qui ont des fiches S, qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui déambulent tranquillement dans nos rues.
La prochaine loi de Gérald Darmanin a pour objet justement de pouvoir expulser tous ces étrangers délinquants, y compris ceux qui sont arrivés en France à moins de 13 ans. Donc ça, vous allez voter cette loi, cette prochaine loi.
Madame, quel est le bilan? Non, mais attendez, quel est le
700 personnes,
quel est le bilan
700 radicalisées expulsées
madame,
depuis 2017.
Madame, il y a 900 000 clandestins dans notre pays, d'après Monsieur Stéphanini, qui est un spécialiste de l'immigration. Il y a seulement 10% des obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées. Donc, il faut aujourd'hui faire un tournant en matière de droit, en matière d'immigration. Il faut couper les pompes aspirantes. Il faut organiser le traitement des demandes d'asile, parce que c'est devenu une filière d'immigration à part entière, comme l'a fait le Danemark, et pour le coup un gouvernement socialiste, dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ. Il faut expulser tous les fichiers S, tous les radicalisés étrangers, il faut les renvoyer dans leur pays. C'est un principe de précaution. Alors,
comment fait-on d'un point de vue pratique, M. Bardella, quand le Maroc, c'était le cas pour M. Iquissen, c'est bien ça son nom, pas Iquissen, M. Iquissen, quand le Maroc suspend son laissez-passer consulaire, que faites-vous?
Bon, je prends le ministre de l'Intérieur au mot, il dit que c'est une affaire de formalité et que le gouvernement marocain attend d'avoir plus d'éclaircissements sur le parcours ces derniers jours de l'imam pour pouvoir le recevoir. Mais on a des outils de pression. Je veux dire, sur la seule année 2019, de mémoire, le nombre de visas que nous avons octroyés au Maroc, c'est à peu près 300 000 visas.
Ça a été divisé par deux depuis.
Donc, il y a
le nombre de visas.
Il y a eu la crise sanitaire, il y a eu le Covid. Mais nous avons des moyens de pression diplomatique. Nous avons exactement des moyens de pression diplomatique avec l'Algérie. Ouais. Exactement de la même manière. Les visas qui sont donnés, les aides au co-développement, les transferts de fonds privés. Vous avez parfaitement raison. Non, mais c'est en cours, madame.
Il y a des centaines de milliers de personnes. La loi que veut porter Gérald Darmanin, si elle permet d'accélérer un certain nombre d'expulsions, vous la voterez.
D'abord, je n'ai pas la loi. Les dispositifs qui vont dans le bon sens au cours des 5 prochaines années, s'ils reprennent ce que nous disons, on n'est pas obtus, nous les voterons. En revanche, je vous rappelle qu'il y a une loi qui a été votée par le gouvernement en 2018, dont on nous a dit « vous ne l'avez pas votée, c'est un scandale, vous ne voulez pas régler la question de l'immigration, etc. » On voit bien, si on est amené 4 ans après à rediscuter d'une loi, c'est que cette loi n'a absolument pas fonctionné. Donc il faut remettre des portes à la Maison France. Et il faut faire en sorte que notre pays arrête d'être un hôtel, l'hôtel de l'Afrique et un hôtel pour la
terre. Monsieur Bardella, un dernier mot, s'il vous plaît, au sujet d'un sujet qui est très important. Le nombre de féminicides a explosé l'année dernière, plus 20%. 122 femmes ont été tuées, 21 hommes également sont morts dans des violences intrafamiliales. Aujourd'hui, dans la presse, la ministre en charge de ces questions suggère la création d'une justice particulière. Quelle est la position de votre parti sur ce sujet? Que faut-il faire?
Je crois que le cancer de la violence et de cette insécurité qui touche même l'intérieur des foyers s'étend aujourd'hui sur tout le territoire national. Et il s'étend parce que notre politique pénale est d'une faiblesse absolument inouïe. Et que bien souvent, les gens qui sont arrêtés, je me réjouis que la parole des femmes se libère, mais sont remis en liberté. Et que les peines sont beaucoup trop faibles.
Est-ce qu'une justice particulière, ce serait efficace selon vous?
Je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Et de la même manière qu'il y a des justices d'exception et qu'il doit y avoir des justices d'exception pour le terrorisme, on parlait de la question de l'islamisme, il peut y avoir pour les féminicides une justice d'exception. Là encore, je pense que la porte peut s'ouvrir. Mais d'une manière plus générale, c'est l'état d'esprit de la justice française qu'il faut changer. Les Français qui nous regardent ont le sentiment que la justice est toujours du côté des mêmes, qu'elle est toujours du côté des délinquants, qu'elle est toujours du côté des criminels. Et là, je mets en cause directement le ministre de la Justice pour la politique. Mais si vous voulez, quand on voit que dans
les
prisons aujourd'hui...
Sur les féminicides, vous mettez en cause Éric Dupond-Moretti.
Je le mets en cause sur l'esprit de sa politique pénale. Donc il est temps d'arrêter de subir. Il faut aujourd'hui sévir. Mais quand on voit que les criminels, si vous voulez, font du karting en prison,
je pense que
le message qui est envoyé aujourd'hui à ceux qui commettent la violence dans notre pays est absolument aux antipodes de celui que défend le Rassemblement National.
Et merci Jean-Denis.
Une mesure de bon sens.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce midi dans BFM Politique. Merci beaucoup Eva, très vite. Benjamin, on se retrouve la semaine prochaine, ce soir déjà.
Avec plaisir.
À 18h pour BFM TVSD, aux côtés de Flora Guebali, Olivier Babot et Roselyne Bachelot. Bel après-midi et à tout à l'heure.